C'est donc à moi de conclure sur des avis pas très populaires.
On t'attend avec des pierres dehors.
Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Napoléon. Et je tiens à dire que cette chronique a été rédigée le jour du bicentenaire de la mort de l'empereur. Donc,
En son
l'esprit,
souvenir.
voilà, l'esprit est là. Ce sera diffusé plus tard, mais l'inspi était là, l'esprit était là.
C'est quoi ton opinion alors du coup?
Le président lui a même rendu hommage. Attends.
Bon, c'est quoi ton opinion sur
Napoléon? Je suis prêt à sortir de
mon
siège là.
opinion, c'est que si vous aimez Napoléon, vous n'aimez pas la République. Et ne pas aimer la République, c'est mal.
Non!
Voilà,
je croyais vraiment que t'allais dire que c'était un FDP, mais ok.
Actor Studio, franchement, réaction à Actor Studio.
Il y a donc quelques semaines, au moment où vous écouterez cet épisode, le président Emmanuel Macron a rendu hommage. C'est complexe de parler de Napoléon lorsqu'on est chef d'État français, mais il a parlé de Napoléon et surtout il vous a prévenu, vous deux, les indigénistes, les séparatistes, les noiristes,
les islamo-gauchistes.
Les islamo-gauchistes.
Et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Non.
Non.
Napoléon Bonaparte est une part de nous.
Ça, c'est vrai.
Il l'est parce que dire son nom continue de faire vibrer partout 1000 cordes d'imaginaire.
Bon, ben voilà.
Les canonnades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques.
Voilà, bon, bref.
On a compris.
On a compris.
En vrai, il a raison, hein, okay, c'est une
Paul
part Verlaine. De nous. Hein.
C'est une part de nous et ça fait vibrer des cordes. Je sais pas dans quel sens.
Mais il est pas d'accord que je sois allé renverser des statues l'été dernier, c'est ça?
Alors, on va partir du début. Déjà, ce que je disais, c'est mon opinion impopulaire. C'est pas tellement que Napoléon est FDP, etc. Bon, ça, voilà. Mais c'est plutôt cette espèce de contradiction qu'on a entre tradition napoléonienne
et modernité macronienne.
Non, mais et république, c'est-à-dire que aujourd'hui,
c'est quand même une figure relativement positive dans l'inconscient collectif. Napoléon, c'est un peu comme De Gaulle ou d'autres personnages historiques, il est généralement plutôt bien perçu, quoi.
Ça vote,
ok.
C'est
l'inconscient de qui?
Ça dépend c'est déjà de qui, mais ça dépend aussi des périodes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui te disent que si t'aimes pas Napoléon, c'est parce que tu te centres sur tes petites différences, etc. C'est une façon de simplifier, de raccourcir l'histoire. Mais partons du début. En fait, le mot république, en France, il est hyper galvaudé. Il est exploité à toutes les sauces et dans le discours politique français, en 2020-2021, on présente la République presque comme une exception française. Et on la définit jamais, parce que c'est très difficile à définir ce que c'est une République. Mais ce qui est important, déjà, je pense, pour commencer, c'est de dire que l'Iran, les États-Unis, la Chine sont autant des républiques et légitimes à être des républiques que la France. Et ce mot République en France, il prend des proportions un peu, je pense que ça nous rend un peu bêtes, un peu comme les Américains avec le mot freedom à l'époque
de George Bush.
You don't like freedom, ouais, freedom fries, you don't like freedom, on a la freedom. Et en fait, je pense que ça nous rend un peu tobé. Alors déjà, il faut poser le contexte français. En France, le camp des républicains, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont des conservateurs qui sont manipulés par les puissances de l'argent, qui se servent de vieux principes du XVIIIe siècle pour justifier le statu quo. En France, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Ici, quand on dit république, c'est plutôt pour dire que tel ou tel truc est contraire à la République.
Ouais.
Donc, par exemple,
on utilise, tu veux dire, le concept de république que comme une que un comme une arme par destination, quoi.
Je te donne des exemples.
Vas-y.
Les jupes trop courtes au lycée.
C'est contre la République.
C'est contre la République. L'écriture inclusive.
C'est contre la République.
Okay. On fait un jeu.
Adorer un autocrate qui a renversé la Première République, placé des membres de sa famille sur tous les trônes d'Europe et orchestré le rétablissement de l'esclavage. Est-ce que c'est
pour la République contre...
Mais voilà. Et donc c'est là. Non, ça va. Ça, c'est pas anti-républicain tranquille. Donc en fait, on vit une période où on est en pleine Napoléon mania. Donc on a eu donc cet hommage du président, des expos, des émissions, et puis surtout un retour en force des reliques de tout ce qui a été touché par Napoléon prend des proportions assez extraordinaires. Il y a des gens fantastiques comme ce
Pierre-Jean Chalençon
qui est le fan numéro 1 de Napoléon.
Putain, donc, je
replace le contexte. Pierre-Jean Chalençon, il s'est fait vraiment connaître du grand public il y a quelques semaines, quelques mois, parce qu'il organisait au Palais Vivienne des petites sauteries, des dîners en plein confinement, en pleine pandémie avec des puissants, etc. Et puis il a fini par dire qu'il fait ce qu'il veut, on est en démocratie.
En République.
Gardien du patrimoine. Et tu vois, quand tu vois ces objets, quand tu vois un peu ce lieu, bah, tu comprends mieux un peu le personnage que je suis. C'est aussi pour ça que j'ai une forte gueule, parce que je défends le patrimoine, la France, nos valeurs, nos artisans. Et que quand des fois je vois que tout part à vous et à Dia,
c'est pas ça l'expression.
Donc c'est pour ça que je suis aussi des fois un râleur et que je défends un petit peu ce qu'a fait notre civilisation depuis tant de siècles. Et qu'aujourd'hui, ça part un peu en vrille.
Nos valeurs, notre France, notre pinard,
bon,
notre terre.
Alors, Napoléon, c'est pas une passion nouvelle. En fait, c'est des cycles. La première fois qu'on a eu une folie de Napoléon, c'était génial. C'est au moment de la mort de Napoléon. Parce qu'en 1821, lorsqu'il meurt, en fait, ça fait 6 ans, donc il est plus empereur. Et on l'a oublié, c'est un peu un loser. Et donc, il y a la mort de Napoléon qui va un peu le remettre sur l'actualité. Et puis, 2 ans plus tard, il y a le mémorial de Sainte-Hélène qui réécrit un petit peu l'histoire. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur les chiffres ronds, on est sur les 200 ans de Napoléon. Et il y a cette première bataille de notre époque, la bataille histoire contre mémoire, enlever une statue de Napoléon, une statue de Colbert, c'est effacer l'histoire. Bon, c'est pas tout à fait ça l'histoire. Et on est passé de la guerre des mémoires à la guerre des mèmes, où en fait, aujourd'hui, ça se tape juste sur la tête en disant, non, Napoléon, il était génial, Napoléon, il était horrible. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le contexte dans lequel on a des discussions au sujet de Napoléon en 2021. Aimer ou ne pas aimer Napoléon, ça veut dire des choses de l'époque dans laquelle on est. Alors aujourd'hui, il y a quelques semaines, on a eu un appel de généraux en retraite à la guerre civile, voilà, un rappel à l'ordre, un homme providentiel. Je pense que dans un contexte de 2021, on ferait mieux de s'apesantir sur, par exemple, les 60 ans du putsch d'Alger, où on a des généraux qui refusent l'autodétermination du peuple algérien, et plutôt parler de parfois en France on a une tradition autoritaire avec une armée qui reste pas toujours très bien à sa place, peut-être qu'il faudrait parler de ça au lieu de bêtement vénérer un petit chef. Donc ça, c'est une autre un exemple. Autre chose aussi qui aurait été intéressant de mettre encore un peu plus en avant, c'était ça. C'était la commune de Paris, 1871.
J'ai entendu parler de certains trucs autour de la commune, là, en ce moment.
Ça prend pas la même ampleur au niveau national. Je pense que tu en as entendu parler probablement dans des milieux islamo-gauchistes pour dire, mais en fait, les femmes ont participé à la commune, les ouvriers étaient là, etc. Mais une des cibles, justement, de la commune, des communards, c'était une statue de Napoléon, la colonne Napoléon, place Vendôme. Donc l'amour pour Napoléon, la haine pour Napoléon, il n'y a rien de très nouveau dans tout ça. Mais en fait, moi, ce que je pense qu'il faut replacer aussi dans un autre contexte, c'est une peur de déclassement de la France qui n'est plus au même rang qu'à l'époque de Napoléon. La France a 130 départements, vous en avez rêvé, Napoléon l'a fait. Et donc, il y a tout ce truc d'une idée d'une France qui est vraiment au centre de l'Europe, avec une Europe sans Allemagne unifiée, sans Italie, avec une Angleterre déjà en mode Brexit. Ça, c'est une France qui marche pour les intérêts tricolores. Et en fait, moi, je peux comprendre ça parce qu'à chaque fois que je me balade en Europe, dans les pays frontaliers, je me dis, comment se fait-il que Monaco, la Suisse, la Belgique, ça fasse pas partie de la France, alors que la Martinique, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion, au calme, c'est la France. Donc il y a une certaine contradiction. Et donc je comprends que si l'armée française a envie, a des fourmis dans les jambes et a envie de s'exercer un petit peu, ils n'ont qu'à, je sais pas, aller imposer la liberté au Liechtenstein ou aux îles anglo-normandes, ça ne me posera aucun problème. Donc ça, c'est un premier truc où on a beaucoup de choses à reprocher à Napoléon au niveau européen. Il y a notamment un début de polémique en 2015 avec un projet de pièce de 2,50 €. C'est les Belges qui ont eu cette idée. Une pièce de 2,50 € qui vient commémorer les 200 ans de la bataille de Waterloo. Donc ils ont fait la pièce, etc. Et vous savez pourquoi ça s'est pas fait?
Pourquoi?
Parce que la France a dit non.
On a perdu.
On a perdu à Waterloo. Oui, pourquoi? Putain.
Oui,
on va pas se faire troller par les Belges. Donc voilà, il y a tout ce truc où comment faire pour concilier la mémoire de Napoléon et le projet européen.
Mais Kevin, est-ce que tu vas mettre les pieds dans le gombo?
Attends, ouais, parce que depuis tout à l'heure, là, tu danses autour du truc, tu dis pas les termes, tu parles pas français.
La pièce de 2,50 €, là.
Attendez. Il y a déjà au niveau européen toutes les distances, toute la distanciation sociale qui a pendant des décennies été nécessaire à l'égard de Napoléon. C'est-à-dire que les présidents passés, il y avait d'autres bicentenaires, commémorations de Austerlitz, etc. Et ils se sont toujours tenus à une distance raisonnable de Napoléon. Pour une première raison, c'est que justement pour construire le projet européen, c'était peut-être pas une très bonne idée de vanter le mec qui a roulé sur toute l'Europe pendant une dizaine d'années. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les années 40, il y a un petit moustachu qui est venu se recueillir devant le tombeau de Napoléon. Donc vraiment, cette idée que Napoléon avait été une source d'inspiration pour tout ce qui s'est passé de sombre, etc. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis ensuite, oui, effectivement, il y a la question assez importante, assez centrale de l'esclavage. Et je dois dire que même du côté de la Fondation Napoléon, même du côté des fans de Napoléon, en 2021, plus personne ne nie ou ne cherche à dire que ça n'a pas existé, etc. Tout le monde est d'accord pour dire que Napoléon a rétabli l'esclavage et que c'était mal. Dans l'ensemble, les gens disent ça. Bon, alors, est-ce qu'ils appellent ça un crime contre l'humanité ou est-ce qu'ils appellent ça
morale, une faute morale, j'ai entendu,
une erreur,
sur France Inter.
Une bourde, voilà, non.
Un dérapage.
Petit rappel des faits. L'esclavage, donc, dans le monde colonial français, les colonies françaises, a été aboli entre 1793, 1794 jusqu'à 1802, où avec ce fameux décret du 20 mai 1802, Napoléon rétablit l'esclavage dans les colonies. Et ça va avoir des conséquences majeures déjà au niveau des colonies françaises. Donc, on a la révolte à Saint-Domingue qui va repousser l'expédition de Leclerc, envoyé par Napoléon, beau-frère de Napoléon, qui va mourir à Saint-Domingue. Et puis le 1er janvier 1804, Saint-Domingue qui devient Haïti. Et puis à côté de ça, en parallèle, même juste avant, on a la Guadeloupe, où des officiers libres de couleur, menés par Delgrès, on va dire tentent de résister à une expédition envoyée par la France, sont débordés et au lieu de se rendre préfèrent mourir. Ce qu'il y a de très intéressant dans tout ça, c'est que cette histoire, elle est racontée, elle a très très longtemps été racontée un peu comme une sorte d'astérisque, c'est-à-dire c'est pas cette petite histoire marginale et lointaine qui va gâcher
qui va empêcher de célébrer la beauté de l'empire napoléonien. Tu vas à Fort-de-France, en Martinique, t'as la statue
de Joséphine de Beauharnais décapitée.
Alors, il paraît qu'elle est partie, la statue.
Ah ben, moi, ça fait 2 ans que je suis pas rentré, mais non, la dernière fois que j'y étais, elle était là.
Moi, on m'a dit sur Twitter, parce que j'en ai parlé, on m'a dit « Ah, la statue, il n'y a plus rien à décapiter, on l'a enlevée. »
Je crois qu'elle est toujours là, mais qu'ils ont jamais remis la tête, en fait. Ils ont lâché l'affaire. Ouais, elle est restée. Et il y a une sorte de tag, il à vendre, etc. Ben, en gros, voilà, Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon, qui est née en Martinique. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi que c'est elle qui a un peu convaincu son mari. Bah, on sait pas trop ce qu'il en est.
Non, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Elle vient donc
d'une famille de Béquet, la famille tachée de la Pagerie. Donc, les colons qui sont les possédants, bien évidemment. Mais à l'époque, le lobby colonial au début des années 1800, il est très puissant et c'est pas des décisions qui se prennent sur l'oreiller, c'est pas juste ta compagne qui te dit vas-y rétablis
l'esclavage. Il y avait des intérêts financiers.
Il y avait des énormes intérêts financiers, puis il y avait une vision aussi du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien expliqué dans un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle La démence coloniale sous Napoléon. Et en fait, ça montre 3 choses très intéressantes sur cette période du rétablissement de l'esclavage. C'est 3 points important, c'est le revirement, l'ampleur et la persistance, ou la résistance plutôt. Le revirement, c'est en fait souvent on a tendance un peu à atténuer le rétablissement de l'esclavage en disant non mais c'est l'époque.
En fait, il y avait des gens qui n'étaient pas pour. Hein.
Le truc, c'est que s'il y a un rétablissement, c'est qu'il y a eu une abolition. Donc, c'est ce qui rend aussi la France un peu exceptionnelle dans le sens négatif, c'est que c'est le premier pays qui abolit l'esclavage. Genre, il y a quoi, on abolit l'esclavage, et puis c'est le premier pays qui dit bon.
En fait, c'est mieux quand même.
Et qu'est-ce qui explique ça? C'est aussi un changement de régime. On passe d'une république à un pouvoir beaucoup plus personnel, à l'empire, etc.
Je fais juste une pause parce que je rigolais, parce que je disais à chaque fois qu'on fait un épisode du Chip, j'ai l'impression qu'on est dans le bus magique et que toi, t'es la prof qui nous conduit et que François et moi, on est derrière.
Mademoiselle qui est en tête.
J'ai jamais regardé, mais ça me fait plaisir. Je vois le générique, mais j'ai jamais regardé un épisode.
T'as jamais regardé le bus magique?
Sur le fleuve de l'amour, le bus magique.
Silence, les enfants. Vous êtes dissipés.
C'est toi, bien sûr, la banque. Sans hésiter. En place. Excuse-moi.
Je disais d'abord un revirement, c'est-à-dire donc franchement la France qui va complètement changer son fusil d'épaule et passer de nous sommes pour la liberté universelle à Oui, bon,
les noirs quand même.
Voilà. Et puis ensuite, c'est l'ampleur de la démesure. Ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est que la question de cet empire colonial, c'est pas juste la Guadeloupe, la Martinique ou Sainte-Lucie ou Saint-Domingue, etc. C'est vraiment une vision du monde avec des grands empires qui s'affrontent. Par exemple, on a tous entendu parler de la campagne d'Égypte de Napoléon. En fait, l'idée, c'est aussi de bloquer l'accès des Britanniques de la Méditerranée vers les Indes. Et donc, ça se passe par l'Égypte. On a déjà des très, très gros empires avec des logiques de compétition, de monopole, de trucs comme ça qui sont très intéressants. Et puis, le troisième point qui est aussi très intéressant dans le travail d'Yves Benoît, c'est la persistance ou la résistance, en tout cas, aux autorités françaises. C'est-à-dire qu'on imagine que parce que Napoléon a changé d'avis, voilà, c'est l'esclavage. Ouais. Que tout le monde, et je parle pas forcément des résistances sur place, aux anti-résistances à la place, je parle même de la société en France avec des gens qui vont continuer à réfléchir, à s'opposer à l'esclavage. Donc ne pas déjà mettre ça dans une sorte de contexte du début des années 1800 et de dire de toute façon personne n'avait jamais rien dit. Non, les Lumières justement, on dit que Napoléon c'est quelqu'un qui va poursuivre l'œuvre des Lumières et les exporter à travers toute l'Europe. Ça dépend quelle partie des Lumières. L'œuvre de
pour qui plutôt.
Ça dépend pour qui, et puis ça dépend quelle partie des Lumières. Si tu es obsédé par, je sais pas, les questions juridiques, le code civil, etc., effectivement, c'est peut-être une avancée extraordinaire. Mais par exemple, si tu penses à des gens comme Condorcet ou l'abbé Grégoire qui ont pensé, qui ont réfléchi à la question de... Je dirais pas de l'égalité totale entre les hommes, mais au moins de la question de la liberté, de l'esclavage, etc. Ben cette partie-là des Lumières, Napoléon, c'est pas tellement son délire. Donc voilà. Il y a aussi plein de questions, de citations qui sortent sur Napoléon, sur est-ce que Napoléon était raciste, est-ce qu'il était pas raciste, qu'est-ce que le racisme, est-ce qu'on peut parler de racisme à l'époque. J'ai une citation, et Mélanie, tu vas me dire si tu penses que c'est raciste.
Vas-y.
Tu vas me dire en quoi c'est raciste. Si juste c'était à la Martinique, j'aurais été pour les Anglais. Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains? Croyez-vous que si la Convention avait su ce qu'elle faisait, elle eût donné la liberté aux Noirs?
Donc on peut pas juste dire... Vas-y, Mel, excuse-moi. Ouais,
vas-y. Plutôt raciste, okay. Hein.
Non, ouais, ce que j'allais dire, c'est que du coup, on peut pas juste...
Je vois pas comment on peut défendre ça, mais oui.
On peut pas juste dire que Napoléon, c'était un homme de son temps. C'est ça que tu veux dire, en fait. Parce que l'argument qui va venir, c'est ouais... Napoléon, ok, peut-être qu'il a rétabli l'esclavage, mais à l'époque, tout le monde était, on va dire, plus ou moins pour ce statu quo. Et là, t'es en train de dire que non, il va un peu plus loin que ce que lui impose l'époque.
Alors, il y a des gens qui vont se plaindre, dire oui, mais bon, c'est cité un peu hors contexte, etc. Donc, on sait pas de quoi parler. Si ça se trouve, il parle des dames, ou il va jouer aux échecs, et donc il explique qu'il est pour les blancs parce qu'il est blanc. Mais en fait, non, effectivement, il est dans un contexte où on parle du rétablissement de l'esclavage, et surtout d'une situation compliquée dans laquelle la France se trouve en 1802. La France vient de signer une paix qui va être provisoire avec l'Angleterre, et récupère la Martinique, qui pendant presque une décennie avait été occupée par les Anglais, et donc l'esclavage n'a pas été aboli en Martinique. Et donc Napoléon, il est face à un choix, il y a des possessions où l'esclavage a été aboli, et des possessions qu'on récupère où l'esclavage...
Il harmonise quoi.
Il harmonise par le bas, on va dire ça comme ça. Donc on va rétablir l'esclavage dans nos colonies, et on va pas l'abolir dans les colonies qu'on
récupère. Les autres là, here we go again.
Et donc il y a effectivement des questions de lobby colonial, de qui parle, de quels intérêts il veut servir, de compétition aussi avec les puissances qui, elles, bon, ben, pour le coup, sont esclavagistes à l'époque. Donc si on doit payer notre main d'œuvre alors que sur l'île d'à côté, les Anglais ou les Espagnols ou les Hollandais, etc., ne payent pas. Donc c'est toutes ces questions-là qui se posent lorsqu'on parle de
Napoléon. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'était pas un grand philosophe des libertés, quoi. Qu'il était plutôt financier, quoi.
C'était pas un grand philosophe des libertés. Et c'est surtout pas une conception de la République, je pense, qu'on partage. C'est-à-dire que Napoléon, au début du 19e siècle, les gens qui le supportent, c'est surtout les puissances de l'argent. Et ce qu'on apprécie chez Napoléon, c'est l'ordre. C'est quelqu'un qui va mettre un peu fin à une récré de 10 ans où il y a plein de paroles de liberté, de ceci, de cela, d'égalité. Sur la question des femmes,
redeviennent des mineurs.
Le code Napoléon pour les femmes, c'est aussi une forme de retour en arrière. Alors il y en a qui vont dire, mais non, mais ça protège le foyer, ça protège un papa, une maman, etc.
Ça protège ma main dans ta figure.
Tu voulais réagir, François? J'ai l'impression de voir les
rouages qui tournent. Je suis ce que tu dis.
Tu es bien assis sur la banquette.
En fait, finalement, aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fonction de la perception et de que tu vas avoir de Napoléon, on peut presque te situer finalement sur l'échiquier politique et notamment identitaire par rapport à la question coloniale, quoi, en fait, c'est ça.
Tout à fait. Et de réclamer, en fait, une sorte de glorification de Napoléon, parce qu'en fait, personne ne réclame, ne demande que Napoléon soit effacé des livres d'histoire. Et même les polémiques autour de Napoléon font qu'il n'y a jamais eu autant d'émissions, que c'est en ce moment c'est plus facile que jamais de découvrir des trucs sur Napoléon. Donc en fait, critiquer Napoléon, c'est pas l'enlever des livres d'histoire, c'est juste de dire moi je me reconnais pas personnellement dans une Napoléon fait tous partie de Napoléon fait tous partie de nous. Ben en fonction de ton avis sur ta position sur Napoléon, on peut deviner qui tu es.
Ouais.
Dis-moi ce que tu penses de Napoléon, je te dirai qui tu es. Mais oui, sur la question de Napoléon, moi je trouve juste très surprenant que aujourd'hui on nous vante la République à toutes les sauces en permanence, et que des personnages qui disent des choses qui sont ouvertement anti-républicaines, tu vois, je pense à Philippe de Villiers qui vient sur tous les plateaux dire des atrocités à longueur de journée, lui il a pas de problème, il est pas en marge de la République, et toi tu viens dire oui mais en fait je pense que Napoléon, enfin il a pas toujours été très gentil avec la Guadeloupe, ça se voit sur les courbes démographiques, etc. On te fait hey, toi par contre la République tu l'aimes ou tu la quittes, et c'est ce genre de truc qui moi me fait m'arracher les cheveux.
Quand tu fais partie des damnés de la terre comme dit l'autre, tu portes pas Napoléon dans ton cœur, en fait. C'est vraiment révélateur. Vous avez peut-être écouté ce morceau de Youssoupha, ce classique inénarrable qui s'appelle Éternel Recommencement, dans lequel c'est la première fois que j'ai entendu ça, en fait. C'est la première fois que j'ai appris en fait quelque chose sur Napoléon que je savais pas. C'est quand il dit ce qu'on nous enseigne me sidère, on oublie de nous dire que Napoléon était raciste et sanguinaire, quoi. En fait c'est un peu ça l'idée. Quand tu vois l'idée que lui en a, tu vois Youssoupha qui est une personne noire décoloniale, tout ça, et l'idée que s'en font en fait les institutions, si tu veux, il y a un contraste qui est saisissant.
Et pareil sur qui on met à l'honneur dans cette histoire de France. Il y a quelques mois, il y a environ 6 mois, j'ai eu la chance de discuter avec un historien extraordinaire qui s'appelle Soudir Azari Singh. Soudir, il est franco-britannique d'origine mauricienne, mais sa famille est originaire d'Inde. Et ça fait plein de d'identités qui cohabitent. Et il est prof d'histoire et il est spécialisé sur les grands hommes. Alors, ces dernières années, il y a plein de gens qui vont critiquer l'histoire des grands hommes, juste mettre des hommes en avant, on pourrait plus étudier les mouvements sociaux, etc. Mais bref, Soudir, il se spécialise sur...
peut-être, je sais pas.
Non, mais c'était justement au sens individuel, mais Soudir, lui, donc il s'intéresse aux grandes personnalités de l'histoire de France, et donc il a commencé par De Gaulle et Napoléon, sans grande surprise. Et donc De Gaulle, puis Napoléon, et c'est en travaillant sur la figure de Napoléon qui creuse un peu, il tombe sur l'histoire coloniale de la France, et il tombe sur l'histoire d'Haïti et Toussaint Louverture. Et en fait, il se rend compte que ça fait des années qu'il étudie l'histoire de France et qu'il n'a jamais, jamais, jamais entendu parler de Toussaint Louverture, de ce que Toussaint Louverture représente pour les idées des Lumières, de la Révolution, de la République. Tu trouves en fait quelqu'un de beaucoup plus solide, de beaucoup plus cohérent. C'est pas pour dire que c'était un saint et que tout s'est bien passé, mais où tu comprends en fait que lui, oui, effectivement, la République, la Révolution, ça lui évoque des choses. Et en fait, il dit qu'avant de commencer à travailler sur Toussaint Louverture, donc Soudir, l'historien qui a étudié l'histoire de France avec des Français, des universités françaises, il dit que son ignorance sur Toussaint Louverture était savamment documentée. C'est-à-dire qu'en France, ne pas connaître, si on ne connaît pas bien Toussaint Louverture en France, ce n'est pas juste un hasard, c'est aussi parce qu'il y a des grandes personnalités. Pardon ?
C'est fait exprès.
C'est parce que si on parle du début du 19e siècle ou de la Révolution française, il y a des grands noms qui vont prendre toute la lumière et qui vont enlever la complexité, etc. Donc ces temps-ci, il y a plein de choses et de recherches et de discussions intéressantes qui se font sur cette époque. Je pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais je pourrais conclure en vous faisant une petite conclusion, en vous disant une première chose, c'est que l'excuse de l'ami noir, c'est Napoléon qui l'a inventé.
Non.
Si. Napoléon en
rétablit l'esclavage, j'ai de très bons amis qui
exactement
sont...
en 1802, donc il rétablit l'esclavage, mais en 1815 il perd tout une deuxième fois, et cette fois-ci on l'envoie à Sainte-Hélène, donc une petite île au milieu de l'Atlantique, et il y a un esclave qui est jardinier et qui s'appelle Toby. Comme dans Roots.
J'allais dire.
Kunta Kinte, frère. Et Napoléon, il s'est insurgé Et il a demandé la libération de Toby, son ami, l'esclave, parce que, en fait, c'est notre égal. Alors, je crois que Toby n'a pas été affranchi, qu'on a demandé à Napoléon, etc. Mais voilà, j'aime bien ce truc que, vraiment, si vous tapez Toby, Napoléon, vous allez tomber sur des dizaines d'articles de mecs qui disent « Attendez, attendez, peut-être que Napoléon est derrière le rétablissement de l'esclavage pour des centaines de milliers de gens, mais il avait un pote esclave et il était pour sa libération. »
Donc ça, c'est beau, l'histoire de France. C'est quand même très, très beau.
Et puis, en guise d'autopromo, depuis quelques mois, j'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle Le Paris Noir Podcast. Et au moment où vous écouterez cet épisode, il y aura un épisode qui sera disponible avec, donc sur Le Paris Noir Podcast, avec Marcel Dorigny, où on va parler de Napoléon, de la démence coloniale, et plus particulièrement de ce livre, Napoléon et la démence coloniale, de Dives Benoît, qui malheureusement n'est plus. Et on va pouvoir vraiment aller loin dans les histoires de blocus, mais les Anglais qui empêchent les Français et l'autonomie de Saint-Domingue et des trucs comme ça. Donc, ça va
déboulonner sec, quoi.
Ça va, après
Colbert, après Cuvier, ouais. C'est bon, Napoléon, we're coming for you next.
Voilà, c'est tout pour moi.